avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ce soir, Barack Obama fera donc ses adieux au peuple américain lors d'un discours qu'il prononcera à Chicago, là même où il célébrera en 2008 sa victoire devant une foule en liesse. Barack Obama en profitera évidemment pour dresser le bilan de sa présidence, pour défendre son propre bilan. Alors justement, que retiendrez-vous de son passage à la Maison-Blanche? Il y a 8 ans, sa victoire, rappelez-vous, avait provoqué une euphorie mondiale. Rarement d'ailleurs une élection aux États-Unis n'avait suscité autant d'espoir au-delà des frontières américaines. 8 ans après son célèbre slogan « Yes, we can », diriez-vous que Barack Obama a tenu ses promesses d'engagement? Nous en parlons ensemble jusqu'à 10h heure de Paris, 9h en temps universel. En tout cas, à 10 jours de son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama est plus populaire que jamais avec 56, voire même 58% d'opinion favorable selon les enquêtes. Que restera-t-il finalement de ces deux mandats? 33 9 693 693 70. Vous nous appelez, vous nous envoyez également vos réactions sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI, appel sur l'actualité. Et pour débattre avec vous et répondre à toutes vos questions, notre invitée, Maya Candel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis. On vous doit d'ailleurs plusieurs publications, dont une consacrée à la stratégie américaine en Afrique. Une enquête, une étude qui ne manquera pas d'intéresser bon nombre de nos auditeurs. Et je précise que vous avez créé le blog Froggy Bottom, qui est consacré à la politique étrangère des États-Unis. Avant de passer au standard, Maya Candel, et d'accueillir un premier auditeur. Un mot tout de même sur Chicago, où Barack Obama fera donc ses adieux dans quelques heures. Chicago, c'est la ville où l'aventure politique d'Obama a commencé.
Oui, c'est sa ville, en quelque sorte, là où il a vécu avec Michelle avant d'entrer à la Maison Blanche. Et puis, c'est là où il a fait ses premières expériences de community organizer, en politique, en quelque sorte. Donc, il est logique qu'il retourne là-bas pour son discours d'adieu, qui devrait être un grand moment.
Et dans quel état d'esprit est Barack Obama aujourd'hui, à quelques heures de ce discours?
Alors, c'est difficile à dire parce que lui-même a été très discret, mais je pense que l'élection de Trump a changé beaucoup de choses pour lui. Il y a maintenant son héritage est en jeu, on y reviendra sans doute, mais ça colore d'une autre manière ce qui vient pour lui après la Maison Blanche.
Ouais, c'est vrai que Donald Trump, son successeur, prendra ses fonctions dans 10 jours. Le 20 janvier, il va tenter évidemment de détricoter une grande partie de l'héritage de Barack Obama. Je le disais à l'instant, en 2008, son élection avait suscité un immense espoir aux États-Unis, mais au-delà des frontières américaines. Finalement, avec un peu de recul, 8 ans après, est-ce que vous diriez, Maya Candel, que cet espoir était un peu démesuré?
Je dirais qu'il y avait un petit peu d'irrationnel dans l'attente que Obama avait suscité, aussi bien aux États-Unis certes, mais en Europe, en Afrique aussi. On avait peut-être un peu perdu de vue à l'époque que c'était avant tout le président des Américains, donc qu'il allait concentrer son énergie là-dessus. Et puis ensuite, bien sûr, par rapport à ses ambitions de départ, par rapport à ce slogan « Yes, we can », il a eu à faire face à beaucoup d'obstacles. Il avait lui-même un héritage très lourd à gérer de Bush, de son prédécesseur. Mais il a aussi eu à faire face à beaucoup d'obstacles, en particulier une opposition républicaine qui a été déterminée d'emblée à lui mettre des bâtons dans les roues au maximum.
Il faut rappeler tout de même, c'est important, que les démocrates ont eu la majorité au Congrès sur les 8 ans, uniquement 2 ans, je crois, les 2 premières années de Barack Obama.
Seulement les 2 premières années, et même pendant la première année, il y avait une majorité de 60 voix au Sénat qui permet de passer outre un certain nombre de blocages, et cette majorité de 60 voix a duré seulement 1 an, et d'ailleurs, c'est l'année où a été voté l'Obamacare et le plan de relance économique. Mais effectivement, il a eu à faire face à beaucoup d'opposition. Et d'ailleurs, son successeur, Donald Trump, est celui qui avait lancé dès le départ une immense cabale contre lui, contre Obama, l'accusant de ne pas être vraiment né aux États-Unis. Enfin, on se souvient de tout ça. Et il a eu à faire face à un climat politique ultra-partisan et particulièrement difficile.
Au standard, 33 9 693 693 70... Abdelaziz est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, nous vous écoutons.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Quand Barack Obama a été élu en 2008, il avait promis la fermeture du centre de détention de Guantanamo. Pourquoi 8 ans après, il n'a pas tenu sa promesse? Et est-ce que Donald Trump va mettre un terme aux libérations des détenus?
Alors, question récurrente qui est revenue ces derniers jours au standard de l'émission. C'est vrai que la fermeture de Guantanamo, on peut le dire aujourd'hui, c'est un échec emblématique de la politique d'Obama. On se souvient pourtant, Maya Kandel, que le lendemain de son investiture, il avait signé un décret pour fermer Guantanamo. Il n'y est pas arrivé. Pourquoi ?
Alors, il y a deux choses, effectivement. C'est une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Ce qui est intéressant, juste en un côté, c'est que, en fait, la fermeture de Guantanamo était aussi, d'ailleurs, un engagement du candidat républicain John McCain, qui était face à Obama en 2008. Mais effectivement, donc Obama n'y est pas parvenu. Pourquoi ? On évoquait le Congrès il y a un instant. C'est vraiment le Congrès qui lui a mis des bâtons dans les roues. Et vous parliez du décret, par exemple. Quand il est arrivé au pouvoir en 2009, il a effectivement signé un certain nombre de décrets, par exemple l'interdiction de la torture. Le problème avec Guantanamo, c'est que quand il est arrivé, il y avait 242 détenus. Et si on fermait cette prison, il fallait savoir où les mettre. Or, le Congrès est là vraiment républicain comme démocrate, se sont constamment opposés soit au transfert de détenus dans des prisons existantes sur le sol américain, soit au transfert de détenus sur le sol américain dans une nouvelle prison. Et ils ont voté des amendements à des lois de budget, donc des lois où il est plus difficile pour le président de mettre son veto, qui interdisaient spécifiquement ce transfert de détenus. Donc Obama s'est trouvé avec une seule possibilité, c'est de transférer les détenus à des pays étrangers avec un certain nombre de garanties, etc. Et c'est quelque chose qu'il a fait tout au long de ses deux mandats, puisqu'aujourd'hui...
Il continue d'ailleurs à le faire.
Il continue à le faire.
On attend une vingtaine de transferts dans les prochains jours. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, Barack Obama va essayer de vider le plus possible la prison de Guantanamo.
Exactement. Et normalement, si ces derniers transferts ont bien lieu, et ça devrait être le cas, il n'y aura plus que 40 détenus à Guantanamo. Donc on est passé de 242 à 40. Et aussi, Obama s'était engagé, il a tenu cet engagement, il n'a transféré aucun nouveau détenu à Guantanamo pendant ces demandes, c'est-à-dire que les arrestations qui ont pu avoir lieu, les gens ont été incarcérés dans des prisons américaines. Alors que...
Que compte faire Donald Trump ?
Je pense qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que Trump, alors déjà mette un terme aux libérations, ça c'est clair, il a même déjà essayé de s'y opposer sur Twitter, mais bon, pour l'instant, il y a un commandant en chef, c'est toujours Obama jusqu'au 20 janvier, et pourquoi pas, Trump pourrait aussi amener de nouveaux détenus à Guantanamo.
Allez, autre question au standard sur un sujet là aussi récurrent, vous en parliez tout à l'heure Maya Kandel, l'Obamacare. Bonjour Kaba.
Oui, bonjour Annie, bonjour à votre invité.
Merci bonjour. De nous écouter à Conakry en Guinée, nous vous écoutons.
Oui, le président Obama a rencontré au Congrès les élus démocrates pour les exhorter à empêcher une éventuelle suppression de l'Obamacare. Alors, quelle marge de manœuvre disposent les élus démocrates pour empêcher cette suppression, d'autant plus qu'ils sont minoritaires au Congrès et au Sénat.
Ouais, c'est vrai que c'était la semaine dernière. Barack Obama s'est rendu, ce qu'il fait rarement, au Capitole pour rencontrer les élus démocrates et il leur a demandé de se battre vraiment pour protéger la santé des Américains et donc sauver l'Obamacare. La marge de manœuvre des démocrates aujourd'hui, elle est, pour ainsi dire, nulle.
Alors, elle n'est pas nulle dans le sens où alors je ne vais pas rentrer dans les arcanes du fonctionnement du Congrès américain, mais le Sénat en particulier, le Sénat américain donne des pouvoirs très importants à la minorité en particulier une minorité de 40 peut bloquer le passage d'une loi. Et donc à ce niveau-là, il faut rappeler effectivement les républicains sont majoritaires au Sénat, mais ils ont 52 sièges, donc ils sont très loin de cette super majorité de 60 voix qui peut permettre de faire passer en force, un peu l'équivalent de notre 49-3 en France, de faire passer en force des mesures. Donc il y a une petite marge de manœuvre à ce niveau-là, sauf si le speaker décide, enfin le Congrès décide de passer par des lois budgétaires. Mais là encore, je rentre pas dans le détail, mais plus important, je pense, l'obstacle est avant tout politique. Pourquoi ? Parce que l'Obamacare a quand même assuré 20 millions d'Américains, et en fait plus si on prend en compte les enfants, etc., mais au moins 20 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé. Donc si l'Obamacare est supprimé, ces 20 millions et plus d'Américains se retrouvent sans aucune protection de santé.
Et parmi eux, j'imagine, des électeurs de Donald Trump.
Et bien voilà.
Donald Trump qui veut donc remettre à plat le système d'assurance maladie aux États-Unis, il veut donc balayer pour ainsi dire, d'un revers de la main, l'Obamacare, il va, j'imagine, se mettre à dos un certain nombre de ses électeurs.
Mais en plus, c'est un peu comme dans le cas du Brexit, où les comtés qui avaient voté pour le Brexit étaient ceux qui bénéficiaient de l'argent de l'Union européenne. Bah là, on se rend compte que parmi les électeurs de Trump, il y en a une majorité qui ont bénéficié de l'Obamacare, parce que c'est dans ces États très touchés par les crises, etc. Donc, effectivement, là, il y a un problème. Et Trump lui-même est allé déjà sur Twitter pour dire au Congrès, à la majorité républicaine, attention, il ne s'agit pas de supprimer l'Obamacare, il faut supprimer et remplacer par autre chose.
Oui, mais remplacer par quoi, c'est la grande question. Et pour l'instant, il n'y a aucun projet concret sur la table. Je voudrais qu'on accueille Mouamadou, qui est à Ouagadougou et qui souhaite justement réagir autour de cette polémique sur l'Obamacare. Bonjour Mouamadou.
Bonjour Juan, bonjour Rafi.
Nous vous écoutons.
Ma conviction sur la politique Obamacare, c'est que vraiment le président Trump devrait réfléchir à deux fois avant de remettre en cause cette loi-là. Vous venez de dire qu'il a demandé à ses représentants de ne pas... Il ne s'agit pas d'une annulation en tant que telle, mais peut-être d'une reformulation de la loi. Je pense que la loi Obamacare ne devrait pas être remise en cause. Premièrement, sur un plan politique, Obama et le président Trump, il est venu dans des conditions catastrophiques. Il y a eu beaucoup de manifestations après son élection. Donc remettre en cause l'Obamacare, parmi ces gens-là, il y a des personnes qui ont des revenus faibles, et il y a des électeurs de Trump, comme vous avez dit, mais c'est une minorité qui n'a pas accès aux soins ou au remboursement des soins de santé. Donc de ce point de vue, il devrait y réfléchir à deux fois avant de remettre en cause cette loi-là.
Alors ça, ce sont les conseils donc de Mouamadou adressés à Donald Trump. Lorsque Donald Trump tweet la semaine dernière, l'Obamacare ne fonctionne tout simplement pas, c'est trop cher. Il a raison ou il exagère, Maya Kandel?
Alors là, là on rentre un peu dans des questions plus complexes de primes d'assurance, etc. C'est vrai que les compagnies d'assurance aux États-Unis, qui sont un gros lobby, ont augmenté en fait leurs primes. Donc pour un certain nombre de gens, le coût de leur mutuelle en quelque sorte a augmenté, mais enfin il reste cet aspect qui a été souligné par votre auditeur à l'instant, que ça représente des millions d'Américains qui sinon n'ont aucune assurance, et là on sait que dans ces cas-là ça coûte beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, au-delà même de Trump, les gouverneurs républicains dans une majorité d'États, il se trouve que ce sont les républicains qui ont ces postes-là, ont déjà aussi indiqué leur inquiétude si le Congrès devait supprimer l'Obamacare sans remplacer par aucune autre couverture santé.
Ouais, et on attend encore évidemment le projet de Donald Trump pour remplacer l'Obamacare. Voilà. Il est 9h22 à Paris. Vos questions sur les échecs et les succès de Barack Obama. 33 9 693 693 70. Bonjour Bouraïma.
Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour à toute l'équipe de RFI.
Merci de nous écouter à Cotonou au Bénin. Quelles sont vos questions?
Oui, précisément, Donald Trump a précisé ses intentions en matière d'immigration clandestine. Entre autres, il a évoqué la construction de murs entre les États-Unis et le Mexique, l'interdiction d'entrée aux musulmans aux USA, l'expulsion également de près de 2 à 3 millions de clandestins. Donc j'aimerais savoir quelle a été la politique migratoire de Barack Obama lors de ses deux mandats présidentiels.
Alors ça, c'est une excellente question, je trouve, Maya Kandel.
Oui,
on le dit pas assez, je pense, et je trouve, Barack Obama a expulsé plus de sans-papiers que toutes les précédentes administrations. Donc plus que Bill Clinton, plus que George Bush, plus que Ronald Reagan.
Alors, effectivement, il est même surnommé dans certains secteurs libéraux très à gauche aux États-Unis le déporteur in chief, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de reconduites à la frontière, d'expulsions sous ses deux mandats. Alors, il faut préciser quand même qu'il avait donné des instructions et les gens qui ont été expulsés étaient des illégaux avec des casiers judiciaires ou mis en cause dans des affaires criminelles. En revanche, il a fait deux choses, mais enfin, pour une appréciation d'ensemble, je pense que c'est un aspect des plus mitigés, voire négatifs de son bilan, en effet. À sa décharge, il faut juste dire deux choses. D'une part, c'est vraiment un sujet, l'immigration, où il souhaitait, parce que il aurait fallu une loi du Congrès. Parce que pour régulariser, pour donner une stabilité et une certaine permanence à des mesures prises sur l'immigration, ça doit passer par la législation. Et jusqu'en 2013, il a pensé que c'était un sujet qu'il pourrait négocier avec les républicains, qui donc étaient majoritaires. sécuritaire hein, à partir de fin 2010. Or, c'est vrai qu'on a pu le penser à un moment, d'autant plus que en 2012, quand Romney a échoué, il y a eu toute une réflexion au sein du Parti républicain qui disait il faut qu'on s'attaque à ce sujet de l'immigration, on ne peut pas ignorer ces populations. Juste pour mémoire, il y a 11 millions d'illégaux aux États-Unis.
200 papiers, effectivement.
C'est le chiffre qui est estimé.
Mais une fois de plus, Barack Obama a été confronté au blocage du Congrès. Voilà. Il a, si ma mémoire est bonne, signé un décret pour régulariser des milliers, des millions de sans-papiers. Et ce décret a été retoqué par la Cour suprême. Donc c'est un désaveu total pour Barack Obama sur la question de l'immigration.
Voilà. Et c'est vrai qu'il avait, et en particulier, il y a une très grande inquiétude aujourd'hui par rapport à ces gens dont il a régularisé par décret, donc en 2014, mais c'était une régularisation provisoire, ce qu'on appelait les Dreamers, donc des enfants, des immigrés arrivés enfants aux États-Unis. Il y avait aussi des mesures en faveur de parents illégaux, mais d'enfants nés aux États-Unis, donc américains. Et effectivement, toutes ces régularisations pourraient être remises en cause par Trump suite à la non-décision en fait de la Cour suprême l'année dernière. Et donc là, il y a une vraie inquiétude là-dessus aux États-Unis. En revanche, je pense que certains États, et je crois que la Californie, c'est très intéressant, la Californie a déjà pris position là-dessus. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises au niveau des États. Et là-dessus, par exemple, la Californie a déclaré que elle ne suivrait pas forcément les indications de Trump sur certains de ces sujets.
Maya Candel, historienne spécialiste des États-Unis, répond à toutes vos questions jusqu'à 10h heure de Paris sur le bilan de Barack Obama. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez du Mali, nous vous écoutons.
Oui, j'ai dit après la crise économique de l'ère histoire, les États-Unis ont vu leur chômage baisser durant les 8 dernières années. Comment Obama a réussi à endiguer la courbe du chômage aux États-Unis et à réduire les effets de la crise économique 2008.
Oui, crise économique, on rappelle en deux mots le contexte. Les maisons ne se vendaient plus, les Américains étaient expulsés de chez eux, le système financier était au bord de l'effondrement. S'il y a une chose qu'il a réussi, Barack Obama, en tout cas, c'est sa bataille contre le chômage. Quand il est arrivé au pouvoir, je crois que le chômage frôlait les 10%. Il est sous la barre des 5% aujourd'hui.
Oui, et puis effectivement, il est arrivé au pouvoir au moment où il y avait la plus grave récession économique depuis la crise de 1929 aux États-Unis, donc vraiment un contexte extrêmement difficile, le chômage en hausse, les gens qui se retrouvaient à la rue. Et il a réussi en 2009, donc là encore pendant cette période avec un congrès démocrate, à voter un plan de relance. C'est vraiment un plan de relance économique très keynésien, plus de 800 milliards de dollars, donc quand même un montant assez impressionnant.
Pour aider notamment l'industrie automobile et les banques.
Voilà, alors il y a eu l'industrie automobile, les banques c'est l'aspect plus controversé, mais aussi la croissance, tout simplement, des incitations à la consommation, des programmes fédéraux d'infrastructures et un filet de sécurité avec une augmentation, allongement des indemnités chômage, hein, qui a vraiment sauvé beaucoup de gens à l'époque. Et une très large majorité d'économistes dit que effectivement, ça a sauvé les États-Unis, ça les a sortis de la crise, ça a évité une seconde crise économique comme on en a connu, par exemple, en Europe. Donc, un bilan à ce niveau-là assez positif.
Assez positif. Et je vais être un peu critique par rapport à ce que vous dites à l'instant, Maya Candel. 4,6% de chômeurs, pour les économistes, c'est quasiment le plein emploi. Donc c'est un excellent bilan. Et en même temps, Trump dit, sûrement à juste titre, les emplois bien payés ont disparu aux États-Unis. C'est-à-dire, oui, les gens travaillent, mais ils gagnent moins bien leur vie.
Alors, il y a eu on dépasse le cadre seul d'Obama. Il y a une augmentation des inégalités aux États-Unis, qui est quelque chose de tout à fait documenté, qui est frappant, qui rappelle une période de la fin du 19e siècle, hein, vraiment la période des monopoles, des multimilliardaires, alors que les classes moyennes sont en train vraiment de s'appauvrir aux États-Unis. Et c'est vrai que à ce niveau-là, Obama n'a pas vraiment réussi à inverser la tendance. On a toujours des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres qui sont extrêmes aux États-Unis et qui posent de graves problèmes.
D'où l'échec d'Hillary Clinton lors du scrutin. C'est une des raisons qui ont poussé aussi les Américains à voter pour Donald Trump. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Une des lectures, je le conçois. Reste avec nous, Maya Candel. On poursuit cette émission spéciale et cette journée spéciale sur RFI à la radio, mais aussi sur notre site rfi.fr avec de nombreux articles consacrés aux succès et aux échecs de Barack Obama. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire.